Éco d'écolo, l'émission étudiante qui met la planète au micro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus pour un nouvel épisode de notre émission étudiante Éco d'écolo, l'émission qui met la planète au micro. Aujourd'hui, nous sommes heureuses de vous retrouver avec Noémie Hab, Kylian Bombourg, Eugénia Sorda et moi-même, Lorena Charretier, toutes étudiantes en master gestion de l'environnement à l'université Paul Valéry. Dans cet épisode, nous allons explorer un sujet passionnant et souvent méconnu, l'agroforesterie, une pratique qui cultive l'avenir. Pour mieux comprendre les perceptions sur ce sujet, nous avons interrogé des personnes de tous âges et provenant de professions variées qui ne sont pas forcément en lien avec le secteur de l'environnement. Écoutons ensemble quelques extraits de leurs réponses.
L'agroforesterie, c'est la première fois que j'entends ce nom. Je pense que ça a un lien entre l'agriculture et les forêts.
L'agroforesterie, l'agroalimentaire, et foresterie, c'est forêt, je suppose.
Pourquoi pas des vaches sous des noyers ou des pommiers, par exemple.
L'agroforesterie, pour moi, c'est de l'agriculture avec des arbres au-dessus.
Alors moi, du coup, pour ma part, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Agroforesterie, je n'ai jamais entendu parler de ça.
Alors pour moi, l'agroforesterie, c'est une manière de réunir l'agriculture au sein des forêts. Après, j'en suis pas totalement sûr.
Alors d'après le nom, pour moi, c'est le fait de cultiver la forêt et d'en tirer des rendements agricoles par l'utilisation du bois ou l'utilisation d'autres produits forestiers.
Pour moi, je ne sais pas ce que c'est que l'agroforesterie. J'aimerais qu'on me l'explique. Hein. Est-ce que les paysans veulent faire des champs au milieu des forêts? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas me l'expliquer? Voilà ma réponse. J'aimerais qu'on m'explique ce que c'est que l'agroforesterie.
Surprenant, hein? Bien que certaines personnes connaissent la signification de ce terme, certaines n'en ont jamais entendu parler. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'approfondir ce sujet avec vous aujourd'hui. Eugénia, peux-tu nous éclairer sur ce qu'on entend exactement par agroforesterie ?
Bien sûr, selon le CIRAD, le Centre de recherche agronomique en France, l'agroforesterie, c'est l'art d'associer volontairement arbres et cultures dans un même espace. Pourquoi ? Parce que cette combinaison permet de tirer profit des interactions positives entre les cultures et les arbres, créant un écosystème riche et résilient. Contrairement à l'agriculture intensive, qui peut épuiser les ressources naturelles, l'agroforesterie valorise les écosystèmes au lieu de les dégrader. C'est une alternative durable et aujourd'hui, elle s'impose peu à peu comme une vision d'avenir pour une agriculture plus respectueuse de la planète. Alain Canet, agronome et agroforestier, décrit cette pratique en parlant d'arbres diffus et dilués dans le paysage. Pour lui, les arbres sont essentiels, notamment le long des routes, des cours d'eau ainsi que des haies. Cultiver sans arbres aujourd'hui, dit-il, c'est impensable. Maintenant que nous avons défini l'agroforesterie, intéressons-nous à son histoire.
Petit rappel de contexte. Le terme agroforesterie est un concept qui a été popularisé par le Centre mondial pour la recherche en agroforesterie, fondé en 1977 et dont le siège est basé à Nairobi, au Kenya. Mais attention, bien que le terme soit relativement récent, les pratiques, elles, sont bien plus anciennes. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ou FAO, on estime que l'agroforesterie occupe déjà plus de 43% des terres agricoles dans le monde. Selon cette organisation, cette pratique repose sur des techniques ancestrales, où les arbres cohabitent avec les cultures et l'élevage, une méthode adoptée depuis des siècles. Enfin, selon le média de l'environnement Reporter, cette technique est connue depuis l'Antiquité, puisque les Étrusques et les Grecs la mentionnent. Au fil des siècles, ces pratiques ont évolué et se sont adaptées aux besoins des communautés. Mais pourquoi cette pratique s'est-elle développée depuis des millénaires? Quels sont ses avantages?
Eh bien, Lorena, c'est tout simplement que ces systèmes, ils ont de nombreux avantages pour deux alliés de la culture, qui sont l'eau et les nutriments. Tout d'abord, il faut bien comprendre que les systèmes agroforestiers, ils vont permettre de contenir l'évaporation naturelle du sol. Imaginez toutes, là, on prend une casserole, on fait mijoter notre petit plat dedans, on le met sur le feu. Qu'est-ce qui va se passer si j'enlève le couvercle de notre casserole? Eh bien, toute l'humidité qui est à l'intérieur, elle va s'échapper. Revenez une heure ou deux après, comment vous retrouvez votre plat? Eh bien, il va être tout sec. Alors que si vous mettez un couvercle, il va contenir l'humidité à l'intérieur et vous allez avoir un plat qui va être du coup beaucoup plus humide et beaucoup plus savoureux. Et en fait, en agroforesterie, c'est exactement la même chose. le feuillage, il agit comme ce fameux couvercle. Il garde l'humidité dans le sol. Mais attendez, ce n'est que le début. Ces arbres, ils ont des racines. Et ces racines, elles vont permettre à l'eau de plus facilement s'infiltrer dans le sol pour remplir les fameuses nappes phréatiques. Alors je sais, vous allez me dire qu'avec un bon système d'irrigation, nos ancêtres, ils n'auraient pas eu besoin de s'embêter à planter des arbres partout. Mais les arbres, ils possèdent des racines qui descendent bien plus profondément que celles des cultures. Là où des plantes comme le blé s'arrêtent à 30 ou 40 cm sous terre, les racines d'un arbre, elles peuvent atteindre la même longueur que leur hauteur. Non mais vous imaginez ? Ça veut dire qu'un arbre de 6 mètres, il a un système racinaire de 6 mètres également. En fait, c'est un véritable réseau souterrain qui va aller explorer les profondeurs. Et ce n'est pas juste pour faire joli. Ces racines vont puiser des nutriments très loin, bien en dessous de ce que les cultures pourraient atteindre. Ensuite, ces nutriments remontent dans les feuilles et quand l'automne arrive, les feuilles tombent. Et elles libèrent dans le sol ces fameuses richesses qu'elles sont allées puiser en sous-sol. Et c'est un petit peu comme un service express de livraison de nutriments pour les cultures, en fait. Finalement, les arbres et les cultures, ils travaillent ensemble comme une équipe où chacun apporte quelque chose de précieux pour l'autre. Un tel système leur offrait également une sécurité alimentaire en diversifiant les sources d'alimentation entre les arbres et les cultures. Et ça, nos ancêtres l'avaient bien compris. Mais finalement, Lorena, tu nous as parlé de l'essor de l'agroforesterie dans le monde. Mais tu peux pas nous en dire un peu plus au niveau de la France ?
Bien sûr, Kylian. Selon l'Agence régionale de la biodiversité Centre-Val-de-Loire, l'agroforesterie a connu un regain d'intérêt dans les années 1980 en France. Cela en réponse à la recherche de pratiques agricoles plus durables. Historiquement, les haies et les bosquets ont toujours été présents dans le paysage rural français, jouant un rôle essentiel dans la protection des cultures et la préservation de la biodiversité. Aujourd'hui, des projets agroforestiers sont soutenus par des organisations comme l'Association française d'agroforesterie, qui fédère plus de 130 partenaires en France et en Europe. J'ai assez parlé d'histoire. Maintenant, je laisse Eugénia illustrer mes propos.
Prenons maintenant un exemple concret, la ferme de la Durette à Avignon. D'après le site de la ferme de la Durette, celle-ci a été créée en 2012 par le groupe de recherche en agriculture biologique. La Durette, c'est bien plus qu'une simple ferme. Imaginez un espace de 6 hectares conçu comme une ferme pilote. D'une part, on a une activité de production gérée par un GAEC, donc une structure coopérative qui permet aux agriculteurs de s'associer. Et d'autre part, on a les projets de recherche appliqués. Leur objectif ? Tester le système agroforestier et évaluer les effets de la diversification sur la viabilité économique. Et sur le terrain, ça donne quoi ? On trouve une quarantaine de légumes, une grande variété d'arbres fruitiers, des rangées d'arbres fruitiers qui alternent avec des parcelles de maraîchage, créant un écosystème équilibré. Résultat, une biodiversité riche et variée de fruits et légumes tout au long de l'année. C'est un modèle en agriculture biologique avec une vente directe pensée pour être à la fois résilient et éco-responsable. Côté environnement, la Durette dit non au plastique jetable et limite le travail du sol. À la place, elle mise sur du broyat de bois et du compost, ce qui enrichit le sol et préserve sa santé. Et ce n'est pas tout. Avec ses haies, ses nichoirs pour oiseaux et ses abris pour chauves-souris, la Durette est aussi un refuge pour la faune locale. Enfin, la ferme se démarque par l'utilisation d'outils low-tech autoconstruits dans l'esprit de l'atelier paysan. Poursuivons notre zoom désormais à l'échelle locale.
En France, les records de chaleur sont souvent enregistrés dans le Gard. Selon France Info, c'est même le département le plus chaud du pays. Le record national de température y a été atteint le 28 juin 2019 avec un impressionnant 45,9 degrés Celsius relevé à Nîmes. Avec ces températures extrêmes, l'agroforesterie prend une place de plus en plus importante dans le département. En effet, cette pratique qui combine une diversité de cultures avec la présence d'arbres permet de renforcer la résilience des exploitations face aux aléas climatiques. Mais avant de parler de changement climatique, on peut s'intéresser à un deuxième exemple d'agroforesterie. Chers auditeurs et auditrices, celui-ci se situe dans le Gard.
En effet, la commune de Vézénobre, située à proximité d'Alès, accueille un des plus vieux sites expérimentaux et pédagogiques de l'agroforesterie en France et même d'Europe. Le projet s'appelle les Terres de Roumassouze. Son histoire débute en 1996, lorsque des parcelles arborées sont plantées et suivies par l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, jusqu'en 2012. Par la suite, d'autres travaux de recherche virent le jour, notamment avec la SCOP, Agrouf, qui gère désormais totalement le site depuis 2023. à savoir que la SCOP Agrouf, c'est une société coopérative et participative spécialisée dans l'étude et le développement des systèmes agroforestiers en France. Aujourd'hui, le projet s'étend sur 11 hectares et présente une diversité de peuplements d'arbres assez rares. Pas étonnant qu'Agrouf soit présent sur le site. Leurs objectifs sur ce site sont divers. Expérimenter l'agroforesterie avec l'installation de 2 maraîchers sur 3 hectares, pratiquer eux-mêmes une activité agricole avec des cultures fourragères et des plants forestiers, mettre en place des expérimentations participatives sur des projets de recherche avec de nombreux partenaires tels que des instituts, des associations, etc. Développer toutes les activités de visite, de sensibilisation à l'agroforesterie et enfin développer des formations spécifiques autour du maraîchage, de la valorisation de bois, etc. Nous avons interrogé Camille Béral, chargée de recherche au sein de la SCOP Agrouf, pour mieux comprendre leur projet. Elle témoigne.
Il faut savoir qu'en agroforesterie, les résultats sont rarement généralisables. Les interactions entre les arbres et les cultures, elles dépendent vraiment des pratiques mises en œuvre, du type de sol, du type du design du projet, etc.
Avec ce constat, l'INRA avait pu observer à Roumassouz les éléments suivants.
Ce qu'ils ont pu voir, c'est que les peupliers déjà agroforestiers produisaient plus de biomasse que les peupliers forestiers, parce qu'ils se faisaient moins de compétition les uns avec les autres, ils avaient donc une croissance favorisée, donc ils produisaient plus de biomasse.
La biomasse étant, d'après le Larousse, l'ensemble des êtres vivants présents à un moment donné dans un milieu.
Sur les cultures, par contre, petit à petit, est apparu des phénomènes de compétition, le blé étant de moins en moins rentable, plus les arbres étaient âgés. Sur la fin du système, la culture de blé n'était plus rentable, en fait, parce qu'il y avait trop d'ombre.
Enfin, l'agroforesterie a de nombreuses qualités.
Et il y a d'autres intérêts potentiels à l'agroforesterie, hein, parce que associer des arbres à des cultures ou des animaux, ça permet, dans l'idée, hein, dans certaines conditions, de s'adapter au changement climatique, parce que les arbres sont susceptibles de modifier le microclimat. On le sait, ils sont capables de tamponner les extrêmes de température. Du coup, ils peuvent limiter les stress hydriques et les stress thermiques sur les cultures, mais aussi sur les animaux, en renforçant leur bien-être. Les arbres peuvent aussi permettre de créer davantage d'habitats pour accueillir une faune, une flore un peu plus diversifiée qui pourrait être susceptible de favoriser des services de pollinisation ou de régulation naturelle des bioagresseurs. D'autre part, les arbres, ils vont créer de l'ombre, ils vont prélever de l'eau et ils vont prélever des nutriments. Donc ils peuvent être aussi source d'une certaine compétition avec les cultures ou les prairies ou quoi.
Kylian, peux-tu nous en dire un peu plus à propos du lien entre changement climatique et agroforesterie ?
Eh bien Noémie, il est peut-être déjà important de rappeler que le changement climatique correspond à une augmentation des phénomènes d'intensité exceptionnelle, que ce soit plus d'inondations, plus de sécheresses, plus de chaleur ou même de froid, ou bien des événements météorologiques particulièrement violents comme les tempêtes, les ouragans, etc. Et le responsable de tout cela, c'est ce fameux dioxyde de carbone ou CO2. Et pour le combattre, on lui a trouvé un ennemi de taille, et pas des moindres. Il adore se nourrir de ce fameux CO2 pour le transformer en dioxygène, le fameux O2, ou plus communément appelé l'oxygène. Et cet ennemi, ce sont les arbres. Les arbres, ils ne se contentent pas de capturer le CO2 dans l'atmosphère. Ils ont bien plus d'un tour dans leur sac. Leurs racines stabilisent le sol en profondeur, ce qui empêche l'érosion et réduit les risques d'inondation en période de forte pluie, par exemple, en favorisant l'infiltration, comme on l'a vu un petit peu avant. Et ce n'est pas tout. Les arbres agissent aussi comme de véritables boucliers contre le vent, qui est une cause majeure de l'érosion des sols. Selon l'Association française d'agroforesterie, un arbre peut protéger une zone jusqu'à 10 fois la hauteur du même arbre. Non mais vous rendez compte, ça veut dire qu'un arbre qui mesure 6 mètres, il protège une zone autour de lui de 60 mètres. C'est quand même très impressionnant. Finalement, Noémie, les arbres sont aujourd'hui des acteurs clés du changement climatique. Mais ne nous arrêtons pas là. Noémie, je crois que, pour finir, tu as un sujet qui va tous et toutes nous mettre l'eau à la bouche.
Effectivement, Kylian. Abordons maintenant le troisième et dernier exemple qui va vous faire très plaisir, cher auditeur, car il s'agit de chocolat.
Mais quel rapport entre le chocolat et l'agroforesterie, Noémie ?
Ah, très bonne question, Eugénia. En fait, l'agroforesterie concerne les agriculteurs et les producteurs. Donc on a sélectionné pour vous un producteur qui se fournit auprès d'agriculteurs agroforestiers. Le projet s'appelle Bar Clandestine. Il s'agit d'une manufacture artisanale française de chocolat gastronomique. Née en 2022 par deux passionnés du chocolat, Émilie Palisson et Emmanuel Ruat, elle est située à Gaillargues-le-Montieux, dans le Gard, à seulement 30 minutes en voiture de Nîmes. Inscrits dans le mouvement Bintoubar, qui signifie de la fève à la tablette, Émilie et Emmanuel achètent leurs fèves de cacao auprès de sourceurs et les transforment directement et entièrement dans leurs ateliers jusqu'à produire du chocolat. Ce mouvement respecte les valeurs de l'éthique, l'éco-responsabilité et l'équité. C'est pourquoi ils font appel uniquement à des fournisseurs de fèves de cacao bio et en agroforesterie. Nous avons interrogé Emmanuel Rua, le cofondateur de Bar Clandestine, qui au sujet des choix des fournisseurs nous a dit:
je pense qu'en 2024, c'est compliqué de ne pas prendre en compte cette dimension quand on est producteur ou quand on fabrique des produits qui sont liés à l'agriculture. Donc pour nous, ça nous semblait une évidence que l'on voulait que le produit soit le plus sain et soit le plus respectueux.
Il rajoute:
donc l'agroforesterie, c'est le choix d'une culture durable, respectueuse.
Je sais pas vous, mais en tout cas, cette histoire me donne faim. Et vous, seriez-vous prêt à consommer des produits issus de l'agroforesterie? Merci de nous avoir écoutés. C'était Éco d'Écolo, l'émission qui met la planète au micro. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez le retrouver en podcast sur le site de Radio Alliance Plus. Vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur le site terrederoumassous.fr, retrouver leurs produits à Nîmes. Et si vous avez des envies de gourmandise locale et plus responsable, rendez-vous sur le site barclandestine.com. Ils livrent et ont des revendeurs dans la région, notamment à Montpellier et à Nîmes. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode et on vous laisse avec « Il est où le SAV » de la chanteuse Suzanne.
Sur ce même cactus, depuis y'a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive, dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois, le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons, on est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février, y'a plus de glace sur les glaciers, les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts, l'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffeur. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe.
On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Mais le numéro est dévié sur ma ligne.
On a...